Radio Public, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles.
La radio africaine, la radio bruxelloise africaine du moment.
Radiopublic.be.
Et voici Regard Afro. Regard Afro. Une tranche des radios publiques. Bienvenue à cette tranche consacrée à une voix bien connue de Bruxelles. Cette voix, c'est celle de Cheikh Fitta. Cheikh Fitta, c'est une personne aux multiples casquettes. Il est homme de théâtre, écrivain et journaliste. Aujourd'hui, Cheikh Fitta va nous parler d'un livre. Un livre qu'il vient de publier et qui s'intitule « Coronavirus, redevenir homme ». Alors, pourquoi l'a-t-il écrit et dans quelles circonstances ? Cheikh Fitta va tout nous dire aujourd'hui, mais sachez d'abord qu'au microphone, c'est Gérard Kanabasao. Bonjour. Après cette musique, voici donc Cheikh Fitta qui nous dit les pourquoi et les comment de son livre intitulé « Coronavirus, redevenir homme ». Cheikh Fitta.
Thank you.
na mosolo boya maloba opesinga di beleta na yeba ki oko ki kobosa na ngaite boya koke ne mobembo mboka batu lelonga na mati masua na tombali na bako na keiye mamanga na kona na sambelanga na sima maloba na nyoso wana lelonga na mati masua na tomboli na bako na keiye liwato pepo moi angatango ekokiye na bengi semo salara
oyo maloba somo oyo maloba paso.
Maloba na nganyo so wana Lelonga na mati masua Na tombo lilo boko na keie Ni wato pepo moi angata mwepo kie Na bengise musalama Ezali liwate Ngana kanga mote mande Uzonge lika Ngana leli yeye Oh papa Ngana kabinzoto Sepona yo Ngana kanga mote mande Uzonge lika
Coronavirus, redevenir homme, c'est donc le tout dernier livre que Tchekfita vient de publier sur le marché. Il nous a donc expliqué aujourd'hui pourquoi et comment il l'a écrit. Pour plus d'infos, allez donc sur son site Tchekfita News. Merci donc d'avoir suivi et à la prochaine. C'était donc Gérard Kanabassao.
Jelly, Jali, Amandinka, ou Kewel, Ewel, en Serer, ou Hewol, en Wolof. Ces appellations désignent une personne qui officie comme communicateur traditionnel en Afrique de l'Ouest, plus communément connu sous le nom de griot.
Radio publique, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles.
La radio africaine, la radio bruxelloise africaine du moment.
Radiopublique.be.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Racine. Racine, l'émission qui vous parle, la chronique qui vous parle de l'histoire africaine sur la radio publique. La radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Traditionnellement, Un griot désigne un homme de caste des poètes, musiciens, des sociétés africaines qui transmettent la culture orale. C'est un artisan de la parole, c'est un artisan du verbe, c'est un maître de l'art de parler. Le djeli, le griot, est un porteur de nouvelles, c'est un charmeur des oreilles et du cœur. En effet, il s'accompagne souvent d'un instrument de musique et de chant pour agrémenter des récits et épopées sans fin. Sa fonction sociale est donc d'être un intermédiaire. Il délivre un message venu d'en haut pour le peuple ou pour une autre personne. La musique est un support au message à délivrer. En somme, on pourrait dire que cet artiste est un artiste accompli. Il sera attiré par son aura et sa virtuose qui lui est propre, le cœur de ses auditeurs. Cette fonction, cette science, est généralement réservée à un groupe d'hommes et de femmes unis par les liens du sang. La connaissance du griot n'est pas un fait de hasard. C'est un héritage culturel. Mais il existe des exceptions à cette constitution en caste héréditaire. Au Mali et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, à côté des griots, dits héréditaires mandingues, il existe un groupe qu'on appelle le Sorao. Dans ce groupe-là, les personnes accèdent à la fonction de griot par choix. Il est raconté que la caste des griots est née dans un contexte où l'écriture était inexistante. Le griot est considéré comme étant le dépositaire de la tradition orale. Car il faut savoir que la façon de préserver et de transmettre l'histoire, la loi, la littérature, en somme, tout ce qui fait société, donc de transmettre tout cela de génération en génération, se faisait par l'intermédiaire des griots. Non pas spécifiquement parce que ces sociétés-là n'avaient pas un système d'écriture, dans un premier temps, c'était dû à ça, bien évidemment, mais il serait plus juste d'y voir l'une des formes principales de l'enseignement des sociétés humaines avec ou sans écriture. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler d'un djeli en particulier, le djeli Bala Faseke ou Bala Faseke Kouyaté, ou encore connu sous le nom de Bala Fasali Kouyaté. D'après la tradition orale mandingue, le djeli Bala Faseke Kouyaté était le djeli personnel de Soundiata Keïta. Soundiata Keïta.
Radiopublic.be.
Il faut savoir que ce djeli fut même le motif qui a déclenché la guerre entre Soundiata Keïta et Soumaora Kanté, qui était donc le roi sorcier du royaume de Soso. Alors, pour parler un peu de cette petite histoire, un jour, alors que Bala Faseke, donc qui est le djeli de Soundiata Keïta, alors qu'il partit au royaume de Soso parce que son roi donc lui avait donné une mission, la mission qui était de délivrer un message à son adversaire Soumaora Kanté. Et ce message était donc que bon voilà, il fallait qu'il capitulait, hein, il exigeait sa capitulation. Bien évidemment, le roi sorcier Soumaora Kanté n'accueillit pas cette nouvelle positivement. Bah, du coup, il emprisonna le djeli de Sundata Keita, donc il emprisonna, il fut emprisonné Bala Sasaké. Un jour, Soumaora Kante, le roi donc du royaume de Soso, était parti pour ses prérogatives de roi et était parti en mission. Et par on ne sait quel moyen, Bala Faseke réussit à sortir de prison et s'aventura dans les appartements du roi, donc du roi Soumaora Kante. Et là, qu'est-ce qu'il vit ? Un instrument qui lui raviva le cœur. Il s'agissait du Soso Bala. Donc c'était un balafon, sacré. Donc il faut savoir que le balafon, c'est un instrument de percussion, idiophone, mélodique, qui est originaire du Mali. C'est une sorte de xylophone. Donc bon voilà, ce Djeli, hein, qui est un artiste, hein, un musicien né, ne put s'empêcher à la vue de cet instrument, de le toucher et donc d'en jouer. On raconte, bon, on ne sait de quelle façon, que à ce moment-là, bon, on dirait que le roi, hein, de Soso rentra et entendit le son de son balasso, le son de Soso Bala, qui était quand même un balafo qui est sacré, quoi. Donc il entra en hâte, hein, dans ses appartements et découvrit que bon voilà, Bala Faseke était en train de jouer son instrument. Mais il ne fut il fut en quelque sorte charmé, en fait, parce que ce Djeli, jouait de cet instrument mais merveilleusement bien. Et donc il décida de cette façon-là de garder Bala Faseke pour lui et pour lui interdire, hein, on dit pour la petite histoire, pour lui interdire de fuir, il lui fit sectionner ses talons d'Achille. Voilà. Et c'est ce qui déclencha la guerre, dit-on.
Mais au-delà du fait donc qu'il a été connu pour avoir été la personne, entre parenthèses, l'incident, l'acte qui a déclenché la guerre entre Sundata Keita et Soumaora Kante, Balala Faseke est surtout connu pour avoir été le griot, le djeli, qui transmet. Donc du fait, en amont donc de la déclaration donc de cette charte, la charte du Mandingue, il eut donc, comme vous l'avez bien compris, une bataille, hein, qui a éclaté entre le royaume de Soso et le royaume Mandingue. Donc du coup, cette bataille est connue sous le nom de la bataille de Kirina. Elle opposa donc Sundata Keita, donc le Mandingue, le roi du Mandingue, à Soumaora Kante, donc du royaume de Soso. Il nous est raconté que donc cet homme, hein, le sorcier Soumaora Kante, était un homme qui était vil et pas intègre, donc. Que ne fut pas la joie quand le camp Mandingue gagna la victoire. N'oublions pas que cette bataille a été précédée de d'autres batailles auparavant. Donc les autres chefs de guerre et les autres rois qui s'étaient rangés, qui s'étaient battus aux côtés de Sundata Keita, l'acceptèrent volontiers comme chef de nation. Et c'est ainsi qu'en 1236, donc en 1236, Sundata Keita fut proclamé au rang de chef et prit les rênes du nouvel empire. Donc c'est au début du XIIIe siècle, à l'issue d'une grande victoire, hein, de cette grande victoire militaire, que le fondateur de l'empire Mandingue et l'assemblée de ses hommes de tête ont proclamé à Kurukan Funga la charte du Mandéen nouveau, Donc c'est le nom du territoire situé dans les hauts bassins du fleuve Niger, entre la Guinée et le Mali actuel. Donc après la bataille de Kirina et la capitulation sans condition du royaume de Soso, les alliés du Mandingue hein, se réunirent donc en 1236 à Kourou-Kanfunga, où ils adoptèrent, et ce de façon consensuelle, cette charte-là, donc la charte du Mandéa en nouveau. Et cette charte hein, devait régir la vie de ce qui va plus tard s'appeler l'Empire du Mali. Donc cet empire, comme vous le comprenez bien sous l'appellation empire, était très très vaste. Donc aujourd'hui on pourrait dire que ça comprend le territoire du Mali, de la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Burkina Faso, le Sénégal, la Mauritanie, plus une grande partie de la Côte d'Ivoire. Donc c'était l'Empire du Mali, donc l'Empire Mandingue. Donc cette charte hein, qui allait donc régir la vie de cet empire mandingue, cette charte est l'une des plus anciennes constitutions au monde. Elle se compose d'un préambule et de 7 chapitres prônant notamment la paix sociale dans la diversité, l'inviolabilité de la personne humaine, l'éducation, l'intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l'abolition de l'esclavage par razzia, la liberté d'expression et d'entreprise. Bon, aujourd'hui, si l'Empire a disparu, les paroles de la charte et les rites associés continuent d'être transmis oralement, et ce de père en fils, et de manière codifiée au sein du clan des Malenke. Pour que la tradition ne soit pas perdue, des cérémonies commémoratives annuelles de l'Assemblée historique sont organisées au village de Kangaba, contigu à la vaste clairière Kourou-Kanfunga, donc c'est au Mali, hein, près de la frontière de la Guinée. Ces cérémonies sont soutenues par les autorités locales et nationales au Mali, et en particulier les autorités coutumières, parce qu'ils y voient une source d'inspiration juridique, ainsi qu'un message d'amour, de paix et de fraternité venu du fond des âges. Et encore aujourd'hui, hein, la charte du Mandingue, représente aujourd'hui encore le socle des valeurs et de l'identité des populations qui sont concernées. La charte hein, a été inscrite en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. En somme, l'histoire de l'Afrique est d'une richesse infinie. C'est dans cette Afrique subsaharienne, il y a 600 ans, donc il y a 6 siècles, qu'avait été déclarée, avant la déclaration des droits de l'homme, un homme, Sundiata Keita, avait légiféré sur des sujets aussi actuels que la préservation de l'environnement, le développement socio-économique, la prévention des conflits, les droits des femmes, de la femme, et sur d'autres sujets.
Radiopublic.be.
Néanmoins, une petite distinction, une précision est à faire hein, par rapport à la constitution de cette charte. Donc l'UNESCO, comme on vous l'a dit, va inscrire en 2009 la charte du Mandéen proclamée à Kourou-Kanfunga sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais en faisant ceci, elle a quand même introduit une confusion entre deux textes qu'on pourrait quand même dire qu'ils sont quand même très distinctifs, hein, ils sont très distincts, ces deux textes qui ont fondé le nouvel empire du Mali. Le premier texte est donc la charte même, donc la charte du Manden, ou le serment des chasseurs, qui est un texte qui a été initié principalement par la confrérie des chasseurs et qui a été proclamé par Sundiata Keïta au moment de son intronisation comme empereur du Mali en 1222. C'est la première déclaration des droits de l'homme qui est reprise souvent comme référence dans de nombreux articles juridiques. Et elle a une vocation universelle, donc l'universalisme peut être africain. Le second texte, donc, c'est la charte du Kurukan Fuga, qui a été découvert donc en 1998 à Kankan, en République de Guinée. Elle date de 1236. C'est vrai que ce texte reprend en partie le serment des chasseurs, mais il diffère en deux points. Premièrement, l'esclavage n'est plus à abolir, mais à humaniser. Liberté, égalité, bon voilà, tout est relatif, quoi. Et deuxième point, le concept d'égalité, il devient relatif, hein, puisqu'il est hiérarchise, parce qu'il hiérarchise la société. Donc, c'est un texte, on va dire, qui résulte du travail des dignitaires et permet de réorganiser l'empire, hein, du Mali.
Racine, une émission que vous retrouvez sur Radio Public, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles.
Alors voilà, nous arrivons donc à la fin de notre émission, l'émission Racine qui vous parle de l'histoire africaine sur Radio Public, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Donc nous arrivons tout doucement à la fin de cette chronique. Et pour ce faire, nous allons partager avec vous quelques articles, hein, au nombre de 7, hein, plus précisément, du premier texte, et on précise bien, c'est des articles qui font partie du premier, qui composent le premier texte, hein, de la charte du Mandéen proclamée à Kurukan Fuga, et donc inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO en 2009. Donc, comme précisé au départ, il s'agit bien de 7 articles qu'on retrouve dans le premier texte. On insiste sur le fait qu'on le retrouve dans le premier texte et non dans le deuxième, c'est dans le premier texte. De la charte du Mandéen ou le serment des chasseurs. Texte qui fut proclamé par Sundiata Keïta au moment de son intronisation comme empereur du Mali en 1222. Cette charte est la première déclaration des droits de l'homme. Nous allons donc partager avec vous 7 articles qui la composent. 1. Toute vie est une vie. Ce principe prône l'égalité entre les hommes. 2. Tout tort causé à une vie exige réparation. Ce principe prône le droit à réparation et responsabilité de ses actes. 3. Que chacun veille sur son prochain. Ce principe, cet article, prône, déclare le respect des droits individuels et solidarité, la solidarité. Quatrièmement, que chacun veille sur le pays de ses pères. Cet article désigne, préconise, prône le principe écologique de sauvegarde de la terre et des peuples qui la composent. C'est le principe du capital, en fait. Cinquièmement, la faim n'est pas une bonne chose. C'est un principe de dignité de l'homme par l'autonomie alimentaire. Sixièmement, l'essence de l'esclavage est éteinte ce jour. Ce principe prône la liberté et la propriété qui commence par la propriété de sa vie. Septièmement, chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes. Chacun dispose désormais des fruits de son travail. tout simplement, principe de liberté et de propriété. Tel est le serment du mandingue à l'adresse des oreilles du monde tout entier.
Radiopublic.be.
Okay, hey world, welcome to Panic Radio. How are you doing, everybody out there? Let's heal the world empires. I am Esther King, interviewing one of the Zambian business beloved businessman from Lusaka, the capital city of the mother Zambia. Okay, good day, sir, and how are you?
I'm good, how are you?
I'm fine, thank you. So it must be a bit uncomfortable to see this short guy busting into your working place and start asking you private questions, ain't he?
Yeah.
Okay, so just pardon me, Oya. We as the Prosto Productions team, in conjunction with Panic Radio, hereby to interview you in order for your story to inspire someone out there in your stead. Someone who is aspiring to become a business person, or maybe they are on their edge of quitting on their business career. Like, what inspired you to become a business person?
What inspired me to become a business person?
Yeah.
Because it's like you have to know what you want.
Yes.
Because what I've noticed, most young people, in just they finish school or from college or from the university,
yeah,
they just want to go and look for a job or maybe start a job. But as for me,
yes,
I think business,
yes,
you have to start a business. Maybe you start a business, start earning money.
Earning money.
Yeah.
Because you need to be independent.
Yeah.
Yeah, and I love that about you.
Yeah.
So, like, you really inspired me, because most of the times, like, we young people, the only thing that we are thinking about is, you know, when I finish school, I want to go do this job. I want to go to that university and start doing that. And, you know, school is the key to success. That's really, you know, destroyed some of our talents.
Yeah, that's...
Yes.
That's,
okay, like, moving on to my next question. What inspires you to keep on going on despite the challenges? What inspires you?
What inspires me to keep going on in business?
Yeah.
Like I say, because I know what I want.
Yes, you know what you
because,
want.
Because here in our country,
yes,
in our country Zambia, it's very hard to get a job.
Uh-huh.
Yeah. So I would advise people to go in business.
Yes.
Because business is a good way to earn a living.
Yeah.
Because you don't have to depend on someone. Or you don't have to depend on going to look for a job. Because maybe one day your boss might just wake up and decide to fire you. So that's
the stress now.
Yeah.
And I'm really glad like you chose that path for you. And it's really inspiring. So everybody who is listening out there, get inspired. So like moving on to my third question. How do you balance your business career with the social life, way of life? Like maybe... Yeah, like you're a young person now and you're doing well in business. Like what keeps you balancing? Because like you sometimes you need to go out to, you know, like just have fun.
Yeah.
Like your friends need something, like you also need to dress yourself. Like what keeps you balanced?
When you are a businessman,
yes,
you have to be serious and you have to be focused.
Yeah, focus, yes, number one.
So you don't have to mix business with pressure.
Yes.
So you must try by all means to forget about material things and just
things,
focus on business.
Mm.
That's where you'll be a good businessman.
Yeah.
Yeah.
I love that about you. Again, with this pandemic crisis.
6-5-7.
Okay, so like you're listening out there, that's a customer now like bumping in. I'm disturbing somebody's business and I'm so sorry. So like we're going to do it very fast and very quick. So like again with this pandemic crisis we're facing now, like how has it been with you like balancing it up?
Like the way we balance, because in business,
yes,
there's a lot of situations.
A lot.
Stressful situations.
And you're managing to get through it.
Yeah, because we manage, because like I said, you have to know what you want. Because when the situation is tough, you also have to get tough.
You have to get tough.
Yeah, that's how business is. Because if you are weak, you can't manage your business.
You can't manage. So like that goes with even like this crisis that we are facing now, okay?
Yeah.
Oh my goodness.
Because this is a tough situation, so we have to get tough as well.
As well.
Yeah, because that's how we survive.
Okay.
So that's how a businessman supposed to be.
Supposed to be. Okay. So like that's the mind of a business person,
yeah,
right?
Yeah, that's the mind
of a
business
person. Oh my goodness. So I need to be a business. You know, from today onwards, I'm considering myself to be a business person. So, okay. What are the last two words you can tell someone there who's starting up a business career or planning on becoming one? Any inspirational upliftment for that or tolation? Any words they can like maybe encourage that person?
Okay, so anyway, the words of encouragement, I would encourage a person who wants to go in a business is that they shouldn't be scared.
Yeah, okay.
To go into a business, because going into a business is a good thing.
Yes.
Yeah, so if they want to go in a business, they just put fear aside. Just go into it.
Okay.
Because I promise it's going to pay in the future.
Okay.
Yeah.
Okay, so you've heard it for yourself, like never be fearful, like you have to be bold with what you want and have discipline as well. That's what thing that I've learned about this. And everyone who is listening there, we have to give a big shout out and thank you to our business person here in Zambia. He's really doing very wonderful, by the way. And you know, like we are getting inspired as, you know, like young people, and he's very young, by the way. And you know what? From me is the king, and the person that we are interviewing, we are just saying we've heard and we are hearing to build our business brands and inspire. That's the only thing that we had to do in this world. So like even as you have gotten the inspiration from the business person that we were interviewing, that I was with in the studio right now, even though it's not a studio, it's a street studio. So like whatever you have to do, aim to inspire someone and to inspire yourself. That way you never go wrong. So that way we are healing the world, and in healing the world we are loving each other. And when we are loving each other, I'm just saying thank you. So like from me and everybody, Prosper Production and Pan Creator, we are saying thank you and God bless. Stay safe and remember to keep yourself clean. Thank you, love you.